Et bonjour les amis, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Oui, je fais mon intro très très vite parce que j'en ai gros sur la patate. Alors avant de faire un déferlement de haine, on va commencer par le principal. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Malheureusement, le podcast le plus énervé que je vais faire ce mois-ci, il tombe le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé les amis, c'est fortuit, mais cette semaine j'ai vécu des dingueries. Donc là, effectivement, aujourd'hui, c'est la Pâque, on est censé avoir un esprit chrétien. Mais là, j'ai envie d'éclater des têtes, en fait. Donc le problème, c'est que là, je dois faire un podcast où j'annihile, alors que c'est le jour de la résurrection de Jésus et qu'on doit se tourner vers des trucs positifs. Donc si vous le voulez bien, je vais commencer par exploser des têtes, hein, d'accord ? Et puis après, on finira sur du positif, on finira sur de l'espérance, on finira sur des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, d'accord ? Donc on en parlera à la fin du podcast. Mais on va d'abord commencer par une exécution publique. Eh oui, ben je vais devoir faire une exécution publique. Et parce que cette semaine, il m'est arrivé des trucs de dingue, en fait, cette semaine. Il m'est arrivé des trucs de fou. Alors vous savez qu'en ce moment, déjà, je vous invite à aller écouter le dernier podcast de mon camarade, le Raptor, qui est excellent, donc 10 000 pas saison 3, que j'ai écouté un petit peu en retard. Moi, je les écoute pas le jour même, je les écoute dans la semaine quand j'ai de la voiture à faire. Le dernier podcast du Raptor traitait de la médiocrité endémique qui s'empare de la question gastronomique. Voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient. J'avais fait un podcast dessus sur le bacon de bœuf et la transformation des standards de la cuisine occidentaux par une nouvelle génération de barbares. Et c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que l'alimentation est quelque chose de central. L'alimentation, c'est quelque chose, je parle dans la culture française, notre civilisation, puisqu'il y a une civilisation française, notre civilisation et notre culture s'articulent autour de la nourriture. La nourriture chez les Français a été un vecteur de civilisation, a été un vecteur même philosophique, puisque à travers notre nourriture s'exprime un esprit, une façon de concevoir les choses, une façon de concevoir l'esprit et le temps. Je vous rappelle que tous les pays n'ont pas de terroir. Ils sont très très peu à avoir ce qu'on appelle un véritable terroir. Peu de pays ont la conception qu'on a de la nourriture dans le sens où nous, on la fait vieillir, on la fait maturer. Donc il y a un rapport dans le temps. Les rapports que les Français ont à la nourriture s'inscrivent aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'on prend un jambon, on le fait sécher, on prend du lait, on le fait, le lait, on le fait maturer, je sais plus comment on dit, pour en faire du fromage. Je sais plus comment on appelle le procédé. Bon, excusez-moi. On prend l'alcool, on le fait vieillir en fût de chêne. On prend le vin, on le fait vieillir en fût de chêne. On a une conception et une vision de la nourriture qui est un entrelac d'esprit terrien et de poésie. Voilà. Moi, quand j'étais allé visiter la distillerie Gélas, donc la distillerie d'Armagnac, c'était très émouvant parce qu'on avait été reçu par le dernier héritier Gélas, qui reprenait donc la distillerie historique de la famille. Et au mur, il y avait le portrait de son arrière-grand-père, de son grand-père, de son père. Et un jour, il y aura son portrait. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est quelque chose d'extrêmement poétique, c'est une espèce d'épopée familiale, une espèce de sacerdoce où on se lègue un savoir-faire à travers le temps, avec une territorialité extrêmement omniprésente, puisqu'on ne peut faire de l'Armagnac que dans le Gers, une partie dans les Landes, je crois. Bref, en fait, tout est comme ça en France. Tout est comme ça en France. Il y a ce qu'on appelle des AOC. Donc, il y a un ancrage territorial et un ancrage dans le temps, puisque c'est un savoir-faire qui se transmet dans les familles. Alors, dans le vin, n'en parlons pas. Mais voilà, il y a une conception comme ça de sacralité de la nourriture. Et c'est pour ça que l'art de la table a même été structurant dans notre façon de nous sociabiliser même. Voilà, le fait de manger debout sur une table, le fait d'être assis, d'avoir des conventions avec l'entrée, le plat, le dessert, le Dijon, le café. Enfin, je veux dire, au fur et à mesure des siècle, on a complexifié l'art de la table, on l'a complexifié chez les aristocrates, mais on l'a aussi complexifié chez les prolos. Voilà. Ça, c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la grande barbarisation qui a touché tout le monde d'ailleurs, hein, c'est pas uniquement que les immigrés, ça a vraiment touché beaucoup de jeunes Français, qu'ils soient des Français de souche ou des Français descendants d'immigrés, il y a une déperdition de la tenue et de la conception sacrée de la nourriture en France. Alors pour diverses raisons, d'une part l'américanisation, d'autre part comment on pourrait dire, la banlieuisation de la nourriture avec son volet islamique de médiocrisation de nourriture en voulant transformer des produits qui ont une histoire et une signification pour les rendre mangeables par des musulmans, l'espèce de fast-foodisation très américaine, parce qu'en plus il y a une gastronomie américaine, contrairement à ce qu'on pense, il y a des plats américains qui sont délicieux, c'est très 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 méconnu, mais ils ont une gastronomie, contrairement à ce qu'on pense. Ils n'ont pas seulement une gastronomie qui a été importée d'Europe, comme par exemple le hamburger, qui en réalité est un plat, est un sandwich allemand, hein. C'est, hamburger, ça veut dire hambourgeois, en fait, de Hambourg, de la ville d'Hambourg, à la base. Donc si vous voulez, il y a une nourriture américaine qui a été développée par les trappeurs, par la culture cow-boy, alors évidemment qu'il y a des influences quand même européennes, qu'il y a des influences de natifs américains, qu'il y a des influences africaines dans le sud des États-Unis, notamment la nourriture créole, qui a évidemment des influences espagnoles, puisque ce sont les Espagnols les premiers Européens qui ont foulé le sol des États-Unis d'Amérique, puisque je crois que les Canadiens, ont découvert le Canada. Pas les Canadiens, les Vikings ont découvert le Canada, mais les États-Unis ont été découverts en tout premier lieu. Les premiers Européens qui ont marché sur les États-Unis sont les Espagnols. Et donc, il y a beaucoup de nourriture américaine qui a un héritage français, puisque les Français ont possédé un tiers du territoire américain pendant de nombreuses années, qui s'appelait la Louisiane, qui allait pratiquement de la région des Grands Lacs jusqu'au Texas. Donc, si vous voulez, il y a des bonnes cuisines partout, mais la France en soi a un très 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 haut niveau de complexité culinaire. Voilà. Alors il y a d'autres pays, hein, pour qui c'est le cas. Je crois que le Pérou est considéré comme une très très bonne cuisine. Vous avez le Japon, vous avez la Corée, vous avez la Chine. Mais je veux dire, voilà, ce sont vraiment la notion de terroir, la notion de vieillissement de la nourriture. Alors, les Chinois ont des œufs de 100 ans en compagnie, mais c'est quelque chose qui est quand même partagé par très très peu de peuples au monde. Voilà. Et même parmi les Européens, je veux dire, la cuisine allemande, la cuisine, la cuisine espagnole, la cuisine portugaise, la cuisine. Il peut y avoir des très 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 bonnes choses, mais ce n'est pas le niveau de la cuisine française. C'est comme ça, parce qu'en usine, la cuisine française a été rendue. Est devenu pratiquement un art, si vous voulez. Voilà. Et moi, il se trouve que j'ai grandi dans l'héritage et la perpétuation de cette cuisine. Alors, j'avais à la maison accès à la cuisine de mes grands-parents, qui était la cuisine typiquement espagnole. Mon père cuisinait espagnol, mais mon père ayant grandi dans le sud-ouest, il faisait aussi beaucoup de cuisine française, notamment du sud-ouest, avec la culture du canard gras, avec toutes ces spécificités qu'on a dans le sud-ouest, puisque vous savez qu'il y a deux pôles culinaires très importants en France. Il y a la région lyonnaise et il y a le sud-ouest. Voilà, c'est les deux régions qui se tirent la bourre dans ce concours de la meilleure cuisine française. Bon. Et c'est vrai que nous, on a, dans le sud-ouest, on a de la chance parce qu'on a des très, 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 très bons produits. Alors, des très, très bons fromages, il y en a partout en France. À très, très bonne charcuterie, il y en a beaucoup en France, même si le sud-ouest, effectivement, quand même, on a fait sa spécialité avec le porc noir de Bigorre et tout ce qui est lié au canard, le magret séché et compagnie. Bon, bref, je ne vais pas tous les énumérer. Mais si vous voulez, moi, j'ai grandi dans une conception de la nourriture. On donne du respect à la nourriture, en fait. D'accord ? C'est quelque chose qui est une partie intégrante de notre culture. C'est même quelque chose de central. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 2025, je tombe un petit peu de carib en scylla, comme on dit, parce que chaque fois que je vais au restaurant maintenant, il m'arrive des déconvenues. Alors, de plus ou moins de grande importance. Mais si vous voulez, pour moi, la nourriture, c'est sacré. Hein. Je vous rappelle que je suis un sale gros, donc en fait, j'y attache de l'importance. Et je constate aujourd'hui que si on veut un service et des aliments à la hauteur, il faut désormais payer très très cher. Alors qu'avant, vous aviez une cuisine populaire dans les bouchons lyonnais, dans les restaurants typiques du sud-ouest, vous aviez une cuisine populaire, même les gargotes parisiennes, vous aviez de très 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 bons repas populaux, d'accord, des bonnes choses accessibles au peuple. Et c'est ça, d'ailleurs, qui avait de magnifique en France, c'est que même la cuisine populaire était une bonne cuisine. La cuisine paysanne était une bonne cuisine. Alors que dans d'autres pays, c'est vraiment les élites qui ont accès à une très très bonne cuisine et le peuple, lui, a accès à une cuisine beaucoup plus basique parce qu'il y a très très peu de produits à disposition. La France met énormément de produits à disposition. Alors, évidemment, ça a varié en fonction des périodes et des siècles. Évidemment, la nourriture s'est complexifiée, s'est diversifiée plus on avance dans le temps avec la découverte des produits en Amérique et puis la mondialisation. Voilà. Mais même au Moyen-Âge, même à la Renaissance, les traités de cuisine français étaient mondialement reconnus dans les cercles d'influence européens, c'est-à-dire en fait toutes les cours européennes présentaient les menus en français. D'accord. Actuellement, encore aujourd'hui, quand il y a un repas officiel dans la famille royale anglaise, le menu est présenté en français. D'accord. La langue de la cuisine, c'est le français. Beaucoup de choses de la cuisine italienne sont à la base issues de la cuisine française qui s'est exportée là-bas. On le sait désormais, on a retrouvé des traductions, en fait, de traités de cuisine. C'est pas pour dire que la cuisine italienne doit tout à la France. Hein. La cuisine italienne est excellente. C'est une des meilleures cuisines du monde. Mais il y a beaucoup d'influence française, en fait, à la base. Voilà. Et si vous voulez, la notion de terroir, la façon même de prendre un repas sur une table, donc en fait symboliquement d'élever la nourriture. Vous savez que pendant très très longtemps, on mangeait à même le sol. Un jour, il y a quand même des gens qui sont mis à table, qui sont assis et qui ont, comme ça, de manière très très symbolique, élevé la nourriture, si vous voulez. Donc on s'est cassé le cul pendant des millénaires et des siècles à essayer de faire de la sustentation un art. Et tout d'un coup, on se retrouve en 2025 avec tous les excès de la modernité et du mondialisme, et on se voit être envahi par la médiocrité à tous les niveaux. Et encore une fois, ce n'est pas uniquement, je ne vise pas uniquement la médiocrité qui aurait à voir avec les populations immigrées de banlieue et leur rapport désastreux à la nourriture, avec des tiramisu à base de chocolat Dubaï, comme le disait le Raptor dans son podcast la semaine dernière. C'est vraiment pas que ça. C'est en règle générale le service, tout ce qu'il y a autour. Les produits sont de moins en moins bons. Le service est de moins en moins bon. L'expérience culinaire est de moins en moins sympathique. C'est-à-dire qu'il faut dépenser de plus en plus d'argent pour avoir une expérience correcte. Vous voyez? Moi, maintenant, c'est malheureux, mais à une époque, à Toulouse, j'allais dans n'importe quel petit resto abordable, et je mangeais un bon truc. Alors évidemment, c'était, il y avait une part de conserve, voilà, vous aviez des conserves de bonne qualité, attention, hein. Vous aviez des restaurants qui vous servaient de la conserve de cassoulet de Castelnaudary qui est tout à fait bonne, et il y a de la conserve de très très haut de gamme, hein. Faut pas croire, il y a vraiment des plats mijotés qu'on peut mettre en conserve et qu'on peut ressortir par la suite. Donc vous aviez quand même beaucoup de restaurants qui vous proposaient des choses qui étaient loin d'être dégueulasses. Et c'est vrai que là, récemment, je constate, mais ça fait plusieurs années, mais là, il y a une accélération. C'est-à-dire que maintenant, dès que je vais au putain de resto, il se passe un truc qui fait que j'ai une expérience désagréable. Alors, il y a le fait que je vieillis, que je m'embourgeoise, que j'ai de plus en plus de d'attentes et de standards. C'est-à-dire que je n'accepte plus de manger de la merde comme je le faisais quand j'avais 20 ans et pas de thunes. Surtout qu'à l'époque, les prix n'étaient pas les mêmes. Parce qu'effectivement, quand tu dépenses 18 euros pour un repas, tu n'as pas les mêmes attentes quand tu en dépenses 80. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de restos qui pratiquent du 80 euros alors que tu manges de la merde, que tu mangeais pour 20 balles dans les années 90. D'accord. Donc, si vous voulez, moi, mes attentes aujourd'hui, elles ont. Alors, attention, je suis pas un putain d'aristocrate, d'accord. Je suis pas sur le premier ponton du Titanic avec 25 couverts sur le côté à écouter Leonardo DiCaprio se disputer avec le milliardaire de qui veut voler la gonzesse, en fait, d'accord. Je me prends pas pour un aristocrate. Je suis un mec de la classe moyenne qui a grandi dans une région où la nourriture a quand même une place importante, et j'ai grandi en France, j'ai visité la France, donc j'ai mangé dans plusieurs restaurants français, et j'estime qu'il y a des choses qui sont la base. D'accord, c'est la base. Tu vois, c'est pas. Je te demande pas d'être un resto gastronomique français parisien que je ne fréquente pas d'ailleurs. Je vais pas dans les énormes palaces parisiens manger. Moi, à Toulouse, je vais chez Gracien, qui est quand même un très 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 bon. Il a changé la brasserie de l'Opéra a changé de malheureusement a changé de chef. À l'époque, j'allais chez Gracien. Bon, ceux qui connaissent à Toulouse chez Gracien, ça donne sur la place du Capitole. C'est quand même de la très 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 bonne nourriture. Et bon, vous payez quand même un certain prix pour manger ce que vous mangez, mais vous vous régalez. Et on n'est pas encore sur un resto gastronomique façon parisienne avec des très 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 grands chefs, je sais pas quoi. Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est la nourriture plus, avec des très très bons produits. Tu as une vraie expérience culinaire. T'es allé au resto, tu t'es régalé. On t'a sorti des bouteilles de malade. Bon, ben tu craches à la fin, voilà. Ben maintenant, j'ai 40 balais, j'ai un peu plus de pognon. Ça me fait plaisir de boire une bonne bouteille. En plus, le chef était très sympa. Il nous offrait la petite poire à la fin ou le petit anis la petite Anisette à la fin du repas, et c'était extrêmement agréable. J'allais y manger avec une bande de copains que je ne citerai pas, mais voilà, c'est les petits plaisirs que tu as quand tu commences à avoir l'argent suffisant pour avoir le lifestyle, pour avoir le vrai lifestyle français. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le lifestyle français, pour avoir le vrai lifestyle français, il faut avoir de l'argent, en fait. Pour vivre encore la France que nos parents ont vécu, je parle pour ceux de ma génération, pendant les 30 Glorieuses, aujourd'hui, avant c'était à la portée du premier populo venu, aujourd'hui, malheureusement, si tu veux vivre régulièrement à la française, eh ben, il faut dépenser. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation, les produits sont devenus tellement chers que tu dois claquer quand même un bon bifton pour avoir une expérience culinaire qui était très très accessible par la classe moyenne il y a 30 ans ou 40 ans de ça, vous voyez, même 40-50 ans de ça, voilà. Donc c'est vrai qu'on a changé d'époque. Bon, ben moi de temps en temps, c'est vrai que je vais dans ces restos-là. Alors évidemment j'ai conscience qu'on est sur la place du Capitole, que c'est pas n'importe quoi comme resto, tout ça et tout, mais on n'est pas sur les trucs gastronomiques. Et moi je me rappelle étant petit avec mon père, on allait manger dans des petits restos du typiquement sud-ouest, et on mangeait très très bien pour des sommes qui n'étaient pas délirantes. Bon, et en fait récemment je me rends compte que je vais dans des restos, des fois je suis en tournage ou je suis loin de chez moi, je connais pas, j'ai pas le temps de rentrer dans le centre-ville, il est 10h du soir, il faut que je mange, donc j'essaie de trouver un resto à la va-vite et je finis dans des chaînes, alors pas forcément au bureau, au Buffalo Grill, mais je finis dans des chaînes de ce style-là, vous voyez, et pour le meilleur et pour le pire. Des fois vous faites un très très bon repas, vous allez au bureau ou au Buffalo Grill, vous faites un très très bon repas pour le prix que c'est, et des fois c'est une catastrophe. Bon, et ben récemment j'ai constaté que de plus en plus il y a des défaillances au niveau de la nourriture, au niveau du service, hein. Et la dernière en date, c'est l'objet de ce podcast aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai démarré en étant un petit peu fâché. L'objet de ce podcast aujourd'hui, c'est de vous raconter ce qui m'est arrivé donc il y a une semaine de ça. Un peu plus d'une semaine de ça, je suis allé au restaurant avec ma compagne. Donc on était, il était assez tard, il était 10h du soir. On a essayé de trouver un truc qui soit pas trop dégueu. On voulait absolument pas finir dans un truc de burger à la con là, ou avec des mecs qui ont des gants noirs et des comment ça s'appelle, et des catogans et des barbes de hipster là. Vous savez ce genre de burger là, c'est insupportable. Je peux plus me les voir. Bon bref, donc on allait dans un resto entre guillemets nourriture italienne. Alors évidemment l'italien commercial, c'est-à-dire les pizzas, la burrata et les nouilles, avec la déclinaison de nouilles, donc sauce arrabbiata, pesto, trufato à la truffe, voilà. Donc il y a une serveuse qui arrive déjà en surpoids. Déjà, elle est en surpoids. Bon, désolé, là, ça va être un peu méchant, mais c'est comme ça, ça m'a gonflé, donc je vais mettre le paquet. Bon, moi, tu me vends un resto italien, tu me vends de la légèreté, d'accord ? Les Italiens, c'est le peuple d'Hermès, c'est le peuple de Mars, c'est le peuple de César, c'est le peuple des colonnes doriques, bon, même s'ils ont copié sur les Grecs, tout ce que tu veux, c'est le peuple des sculptures proportionnées avec des Julines, comme disent les fils de pute, on te vend un univers. Quand on te propose à manger, on te vend un univers. D'accord ? Moi, quand je vais dans un restaurant grec, quand je vais dans un restaurant iranien, quand je vais dans un restaurant italien, je vais dans un restaurant qui, pour moi, symbolise la civilisation. Parce que ce sont des grands foyers civilisationnels, donc forcément, la cuisine, elle s'est fabriquée sur des millénaires, dans le cas de la Perse, par exemple. Et donc, enfin, même dans le cas de l'Italie et de la Grèce, mais je veux dire, c'est des endroits, tu t'attends à percevoir un petit peu des bouts de civilisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce marasme de mondialisme, de mélange entre islamisation et américanisation de la nourriture pour avoir à la fin des burgers aux tagines, si vous voulez, il y a entre tout ça, il y a l'espoir que peut-être la modernité va nous concéder de passer un petit moment en suspension comme ça, dans des endroits qui, quand on connaît un petit peu l'histoire, nous ramèneraient vers une époque où il y avait encore de la grâce et de la beauté sur Terre. Voilà. Alors on imagine les jardins d'Ispahan, suspendu comme ça dans la Perse millénaire. On imagine, dans le cas d'un restaurant italien, qu'il y a une espèce de mec avec une gueule un peu de centurion qui va venir prendre la commande et qu'ensuite il va y avoir une sorte de Madone italienne, des comment ça s'appelle, des tableaux du Caravaggio qui va venir t'amener ton plat. Tu as envie de ça, Tu as envie de ça, tu vois. Pareil pour un restaurant grec. Tu te dis, bon, je suis quand même dans la nourriture qui est censée manger Zeus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la nourriture grecque, dans ma tête, c'est la nourriture des dieux grecs. Bon, et puis tu penses à Homère, tu penses à l'Iliade, tu penses à l'Odyssée d'Ulysse, tu penses à la guerre de Troie, tu penses à ces choses-là et tu te dis, putain, je vais avoir un petit morceau de grâce et d'infinité. Et en fait, à travers la nourriture, je vais comme ça peut-être toucher du doigt une grande vérité secrète de la culture du pays qui me propose cette nourriture, voyez. Bon, et ben là j'arrive dans ce restaurant soi-disant italien, bon, qui reste une chaîne, donc je m'attendais pas non plus, c'est une chaîne, c'est pas Emiliano Pavarotti qui tient le resto, quoi. Si tu veux, c'est pas un chanteur d'opéra, asseyez-vous. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça, je le sais, il va pas y avoir une chanson « Brucia la terra in cielo e io brucio d'amour ». Je m'attends pas à croiser Al Pacino et le gonze là dans Le Parrain 3 qui commence à prendre sa petite mandoline et qui nous joue un air sicilien. Vous imaginez, tu rentres dans un restaurant italien et systématiquement le gouvernement italien fournit au restaurant italien le sicilien qui joue à la mandoline dans un coin du restaurant pas très éclairé avec des bougies. Je sais que je vais pas tomber sur ça, et c'est pareil pour un restaurant iranien. Quand je vais chez Mazé, je me régale, je m'attends pas à ce que tout d'un coup il y ait des espèces de danses folkloriques perses du 4e millénaire avec Jésus-Christ, avec des plateaux d'or, avec des servants comme ça qui nous amènent des plateaux d'or, avec Mazé qui arrive avec un costume de roi perse et qui nous dit, tenez, voici 50 kilos d'or chacun. Évidemment, faut pas déconner, je suis pas non plus un aristocrate, ce sont des très 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 bons restaurants. Dans le cas de Mazé, c'est un très 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 bon restaurant, je m'y régale, c'est pour ça que j'y retourne tout le temps, mais je veux dire, je suis pas dans l'attente de je sais pas quoi, de tel restaurant, de chef du guide Michelin de mes couilles. Il y a des restaurants où je suis allé où j'ai mieux mangé que dans des restaurants gastronomiques. Je vais pas les citer parce que je risque de vexer des gens. Je suis allé dans des restaurants de chefs très connus. Honnêtement, certaines fois, je me suis moins régalé que dans des petits restaurants lyonnais ou gersois. Je suis allé dans un restaurant, par exemple, dans le Lot, qui est un ancien relais de mousquetaires. J'y suis allé avec mon père, on a mangé à côté d'une cheminée, mais le repas était excellent, excellent. On a mangé une espèce de viande confite, de l'agneau confit qui se délitait comme ça sous la fourchette, mais c'était incroyable, avec des pinards absolument stratosphériques. Et c'est loin de tous les radars possibles et imaginables de la grande gastronomie. Ça ne veut pas dire que les grands restaurants gastronomiques sont systématiquement des restaurants de merde, c'est pas ça que je dis. Je dis que certaines fois, vous allez dans des restaurants qui sont pas forcément connus, qui n'ont pas forcément pignon sur rue de manière officielle, mais où vous vous régalez. Bon, donc je m'attendais pas non plus à un truc de dingue, d'accord, voilà. Mais je rentre, j'ai pas envie de voir une obèse, si tu veux. Voilà, ça je le dis aussi, si tu veux. Je m'attends pas à rentrer dans le Colisée avec Homère qui déclame un poème en latin, tu vois, pas Homère, avec Orphée qui déclare un poème en latin, mais j'ai pas envie de voir une grosse, si tu veux. D'accord ? Là, j'arrive, tu me promets l'Italie, je suis dans une convention de Monster Truck, en fait. Il y a un Monster Truck avec un drapeau sudiste qui est en train de faire un saut au-dessus de 4 Ford Bronco cassés dans un stade, en fait. Bon, mais je m'attendais à autre chose. Tu me vends l'Italie, je me retrouve dans le Tennessee. Mais en plus, j'ai rien contre la culture américaine. Ça me régalerait de voir des Monster Trucks sauter par-dessus des bagnoles. Mais c'est pas ça que tu viens chercher quand tu vas dans un restaurant italien. Ou alors, s'il y a des obèses, je veux des obèses italiens. Je veux des obèses en couleur. Je veux des obèses AOC italiens, d'appellation origine contrôlée italienne, d'accord ? Parce qu'il y a des types d'obèses, ok ? L'obèse saoudien, il sécrète pas la même huile que l'obèse italien, si tu veux, d'accord ? Il y en a un qui il tripote un peu les domestiques là dans son palais en marbre de Riyad, alors que l'autre il a la grâce, tu vois, il a la grâce l'autre, il a un putain de costume impeccable qui est pas thermocollé et qui est validé par Hugo Jacomet et mon ami Cormac, tu vois. Mais t'as pas envie de voir une sale grosse, en fait, tu vois, t'as pas envie de voir une sale grosse. Si vous nous mettez un gros, mettez-nous un gros italien, tu vois. Eh bonjour, comment est-ce aujourd'hui? Eh que fate? Tu vois, t'as envie de voir ça? Là oui, en fait. Mettez-le du gros avec une chevalière et une demi-calvasse qui ressemble à De Niro, mais en version obèse quand il joue, comment il s'appelle, Al Capone dans Les Incorruptibles, bordel. Tu vois, je veux ça, je veux du Rita la bagouze, avec des chemises, tu vois, qui transpirent un peu, avec des poils qui sortent de son torse, tu vois, qui me fait voyager. Il faut que je vois plein de choses quand je le regarde. Il faut que je vois l'Italie millénaire, il faut que je vois la mafia en train de vider les poubelles dans un endroit où il y a de l'eau de source qui sert à alimenter des millions d'Italiens, tu vois. Il faut que je sente l'Italie, tu vois, faut que je vois le truc. Là, vous me mettez une grosse qui a rien à voir, quoi. Vous me foutez une grosse. Parce qu'en plus c'est un Espagnol que ça s'est passé. Vous mettez une grosse espagnole, quand une vache espagnole, vous mettez. Je veux pas voir ça quand je vais dans un resto italien. Donc elle déboule avec son surpoids et elle prend la commande. Bon, elle prend la commande. Alors je lui dis voilà, on regarde la carte avec ma compagne. Je lui dis bah, écoutez, on va prendre tous les deux la même chose. Écoutez bien la phrase que je vous dis. On va prendre tous les deux le même plat. On va prendre tous les deux le même plat. On va prendre une pasta al trufato. Bon, des pâtes à la truffe. Bon, c'est de la truffe chinoise et tout ça. Je m'en bats les couilles. C'est 13 euros le plat de pâtes. Hein. C'est sans doute de la merde industrielle. C'est pas grave. Je veux juste manger avant d'entrer chez moi. Bon, elle va en cuisine. Au bout de, un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est normal quand on prépare de la nourriture sur place, c'est même plutôt bon signe. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, bon, sachant que je pense que les sauces sont déjà faites et compagnie. Mais bon, bref. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle m'amène un plat. Elle amène un plat, quoi. Une assiette, elle amène. Elle amène un plat dans une assiette. Et la différence entre plat et assiette est importante. Et elle place l'assiette au milieu de la table. Je me dis, oula, c'est bizarre, pourquoi elle ne met pas l'assiette devant l'un de nous deux? Le temps passe, ma compagne est en train d'attendre mon plat à moi pour qu'on puisse commencer à manger ensemble. Le temps passe, je vois la grosse qui végète dans un coin. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, t'es un bigorneau, tu vas t'incruster sur le mur, qu'est-ce qui se passe en fait? Et mon plat, il est où, tu vois? Donc ça passe. Voilà déjà plus d'une demi-heure, voire 45 minutes qu'on est dans le restaurant. On a attendu 20 minutes ou 30 pour se faire servir. Là, ça fait un quart d'heure que le plat de ma gonzesse est sur la table. Bon, au bout d'un moment, je me lève et je me dis, attendez, excuse-moi, elle arrive quand mon assiette? Et là, la gonzesse me dit, ah, mais vous m'avez pas dit que c'était le même plat pour deux? Espèce d'énorme salope! Tu confonds plat et assiette? On va prendre le même plat dans deux assiettes différentes! Espèce de demeuré de merde! Espèce d'imbécile! Tu crois qu'à 40 balais, je vais amener ma gonzesse au resto pour lui demander de faire comme même quand j'avais 16 ans, je faisais pas ça avec les gonzesses. Je préférais aller dans un restaurant pas cher que partager un plat, putain. Si j'ai pas la thune pour acheter deux plats, je vais dans un kebab de merde! D'accord, je lui paye un shawarma sauce babouche hein, et on en prend un chacun et ça fait 8 euros à la fin, salope. Est-ce que tu crois vraiment qu'à presque 40 ans, je vais amener ma gonzesse pour qu'on ait tous les deux une fourchette hein, et qu'on bouffe un plat au milieu de la table, espèce de sale grosse de merde, sale obèse de merde? Mais vous m'avez dit le même plat, mais tu fais la différence entre un plat et une assiette, salope. On veut le même plat dans deux assiettes différentes. Quand je dis on va prendre tous les deux la même chose, pâte al trufato, la pasta al trufato, quoi. Enculé, la gonzesse t'amène une seule assiette. Mais salope, tu m'as pris pour un réfugié, t'as vu quoi là? Il y a une bâche de l'ONU derrière moi, je vis dans une putain de tente, d'accord? C'est Georges Soros là qui me loge gratos, salope! Salope, demeurez, arrête de scroller, parce que tout ça, ça n'arrive que parce que les êtres humains sont devenus des merdes. Avant, les gens écoutaient, ils prenaient les informations. T'avais pas besoin de répéter les choses, de bien donner un contexte et tout. Tu donnais des informations, les gens étaient précis, bordel de merde. Ils étaient précis. Même le dernier Rital, à moitié tunisien du fin fond de la putain de Sicile, hein, d'accord? Il avait le QI suffisant pour t'amener deux assiettes du même plat. Et toi, t'es une putain d'obèse qui fait un travail, alimentaire, c'est le cas de le dire, tu vois, parce que tu t'alimentes bien quand même, hein, qui fait un plat alimentaire et qui en a rien à branler, putain. Moi, quand j'étais déménageur, je faisais pas le boulot à moitié, parce que j'étais conscientisé, j'étais présent dans mon corps. Je suis pas un zombie qui marche avec les yeux vides. Je suis un être humain. Quand j'étais déménageur, les gens me confiaient leur putain de vie. J'emballais les cadres de famille, la photo de leur gosse. J'emballais des meubles qui leur avaient été légués par leurs grands-parents. Je faisais gaffe. Je mettais la couverture, le néoprène. Je foutais le carton par-dessus. Je mettais un coup de scotch. Je me faisais engueuler parce que je mettais trop de scotch. C'est pas grave. Je t'amène tes plats. Je t'amène tes affaires du point A au point B. Je les ai respectées. Je t'ai respecté. Je suis sous-payé pour ce que je fais. Enfin, ça va. À l'époque, le salaire que j'avais, ça allait plus ou moins, tu vois. Bon, mais je suis payé normalement pour ce que je fais, c'est pas grave, même si j'étais pas payé suffisamment, j'aurais quand même bien fait mon boulot, d'accord ? Quand tu vas aux urgences, ou quand tu vas te faire opérer, d'accord ? Bon, les chirurgiens sont très très bien payés. Mais ce que je veux dire, c'est que y a des gens qui sont très très peu payés, ils vont pas à moitié te sauver la vie. D'accord, les pompiers, les flics, par rapport à ce qu'ils font, ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils prennent sur la gueule. Mais même les maçons, je veux dire, il y a plein de boulots comme ça que je peux nommer où les gens sont pas suffisamment payés et ils font quand même bien le boulot. Il y a des maçons, alors pas tous, mais il y a des maçons, en tout cas l'ancienne génération, quand ils te faisaient un truc, ils conscientisaient quand même que t'étais en train de faire ta maison et ils faisaient pas n'importe quoi. Alors évidemment, tu tombes toujours sur des mecs un peu chelous. On a tous des histoires comme ça, mais c'était pas la norme. La norme, c'était que les gens faisaient du bon travail. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les maisons qui ont été faites dans les années 70 s'arrachent parce que les mecs mettaient des gros murs, il y avait des bons matériaux, ça allait, on faisait les choses en dur. Les gens s'appliquaient. Moi, je me suis toujours appliqué dans les boulots que je faisais, indépendamment de si j'étais bien payé ou pas. Imaginez, je sais pas moi, un ambulancier, il trouve qu'il est pas si bien payé. Bon ben, en fait, au lieu de te faire 15 impulsions sur le cœur et puis te souffler dans la bouche là pour te faire un massage cardiaque, hein, il fait que la moitié parce qu'il est payé à moitié pour ce qu'il fait. Mais ça serait un désastre. Et aujourd'hui, je constate que les gens n'écoutent plus. Je lui donnais toute l'information, ils n'écoutent plus. Ils te font répéter. Des fois, tu dis des trucs simples. Tu dis, je veux ça. Je veux ce plat et ce plat. Dans ce plat-là, il faudra bien cuire la viande. Bon, mais le mec oublie, tu vois, tout le temps. Faut toujours le redire, envoyer le plan de cuisine et tout. C'est infernal. Moi, quand j'étais gosse, putain, t'allais au resto, même les restos populos. Tu faisais la commande, t'avais ce que t'avais commandé. Putain, il y avait de l'application. Aujourd'hui, tout le monde est démissionnaire. Parce qu'en fait, les gens sont des merdes. Cette grosse, qu'est-ce qu'elle fait quand elle rentre chez elle? Elle scrolle. Elle est sur Instagram de merde et elle scrolle. Et son cerveau est ramolli, con. Et elle n'est pas touchée par la grâce. Elle ne sert à rien. C'est un tube digestif, con. Elle consomme, elle chie. Il faut la soigner, il faut l'éduquer. Elle n'apporte rien, con. Elle n'apporte rien que ne pourrait pas faire une machine. C'est-à-dire que le jour où il y a une machine qui m'amène le plat que je lui ai demandé, ça commence, hein. Dans les fast-foods, ça commence. Hein. Dans les fast-foods, alors évidemment, il y a des gens qui traitent la commande qui sont des humains, mais la prise de commande, c'est une machine. Bon, mais un jour, peut-être que le traitement de la commande sera une machine. Qu'est-ce que vous allez faire, là ? Comment tu vas être compétitive, Magali ? Comment tu peux être compétitive ? Tu as l'œil vide. Tu es bovesque, quand. Tu es même pas bovine, t'es bovesque. T'es une bovinasse, quand. Une bovinasse avec l'œil vide. J'ai envie de te foutre un coup de marteau derrière la nuque pour qu'on te dépaisse. Et qu'on fasse du steak avec, con. Sans déconner. Putain, vous êtes absent de vous-même. Vous êtes absent de vous-même. Vos âmes sont sorties de votre corps. Ça veut dire que vos corps n'ont plus d'âme. Vous n'êtes présent dans rien. Vous n'avez plus aucune conscience de vous-même. Plus aucune spiritualité. Vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas incarné. Vous n'êtes pas dans vos corps. Je traite avec des zombies, putain. Avec des zombies. Il y en a de plus en plus à tous les niveaux. Des gens qui ne s'appartiennent plus. Mais spirituellement parlant, philosophiquement parlant, c'est une catastrophe. Parce que le jour où il y a une machine qui traite mieux la commande que toi, qu'est-ce que tu as à faire valoir de plus que la machine ? Ah, mais moi, je chie et je tombe malade. Ah, ben génial ! Ah, génial ! Ça te rend plus compétitif que la machine, ça ? Attends, regarde, je résume. Une machine italienne dans un restaurant italien, d'accord ? Ils vont la déguiser en Tony Soprano. C'est-à-dire qu'un jour, il y a putain de Boston Robotics, ils vont faire Tony Soprano en robot, d'accord ? Et chaque putain de resto italien pourra se payer le robot complètement réaliste de Tony Soprano. C'est-à-dire que t'arrives dans une pizzeria, le mec qui prend ta commande, c'est Tony Soprano. Et dans les gros restos italiens, ils auront des robots avec tous les acteurs italiens ou toutes les personnalités italiennes que t'aimes bien. C'est-à-dire que j'irai dans un resto italien, il y aura un robot de Stallone, un robot de Al Pacino et un robot de Tony Soprano. D'accord ? Avec les doublages français et tout. Tu vois ? Mais comment tu vas faire pour trouver du boulot, là ? Qu'est-ce que tu vas faire valoir, espèce d'énorme vache ? Ça va être quoi, la plus-value, sale pute ? T'es incapable de prendre une commande, et toi, contrairement au robot, tu fais caca, tu tombes malade, et tu déprimes, parce que t'es grosse et de gauche. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là, sale pute ? Si t'es pas présente, si on n'est pas présente, si on met pas de la beauté dans le monde, si on ne justifie pas notre complexité d'être humain, qu'est-ce qu'on devient? Comment on résiste à la machine? Qu'est-ce qui va empêcher un restaurateur italien de te remplacer par un putain de robot? Bah attends, mets-toi à sa place! Mets-toi à sa place, sale pute! Il a le choix entre une grosse vache de merde qui se gourre quand elle prend les commandes et un robot de Tony Soprano qui fait jamais grève. Et tu peux lui faire faire 150 heures par semaine. Et le paiement, c'est qu'une seule fois parce que tu l'as payé au début. Tu mets 25 000 euros, t'as ton robot, il va fonctionner pendant 30 ans. Allez, t'as 4000 balles de maintenance tous les 5 ans, tu vois. Bon, mais c'est rentabilisé, quoi. C'est rentabilisé. T'arrives au resto, il y a Tony Soprano. Ou El Pacino. Ou De Niro. Eh, qu'est-ce que tu veux manger? Tu sais, il y a comment ça s'appelle, quoi. Il y a Danny DeVito. Tu sais, t'arrives dans un restaurant comme ça, il y a Danny DeVito qui arrive. Eh, salut mon pote, qu'est-ce que tu veux manger? Tiens, assis-toi là. Tu vois. Mais ça régalerait, ça. Ça régalerait beaucoup plus que d'avoir une grosse vache. Le problème, c'est que c'est des putains de robots, en fait. Animés par des IA. Donc, en fait, t'as un enculé d'informaticien qui se branle sur du hentai. Il va aller sur un ordinateur surpuissant. Il va commencer à fabriquer un logiciel italien, d'accord? Il va remplacer ton âme et ton corps par un robot avec une IA italienne. Donc, on va aller au resto. Et au lieu d'avoir toi, qui est dégueulasse, qui prend pas les informations correctement, on va avoir un robot, en fait. Voilà, on va avoir Danny DeVito. Et t'es lui, mon pote. Tu sais, il aura un cigare qui fait de la fumée, mais qui fait pas de la fumée, qui fait une odeur de cigare, tu vois. Pour que ce soit quand même dans l'ambiance. Mais que les gens n'aient pas les bronches embêtés par la fumée du cigare. Donc là, t'as Danny DeVito qui a... Et t'es lui, mon pote. Et comment ça va? Tu veux manger aujourd'hui, là? Tu vois? Mais ça régalerait. Ça régalerait. À la fin, t'auras des restos italiens avec Joe Pesci habillé comme il était dans le casino. Tu vois? Et je te fais rire, moi. Non, mais ça, faut que vous en ayez conscience, bande de sale pute. Faut que vous en ayez conscience. Faut que vous en ayez conscience de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, si on me donne le choix, je suis désolé. Moi, si on me donne le choix entre être accueilli par une grosse qui se gourre quand je lui fais une commande et qui m'amène un plat pour deux, et un robot extrêmement bien fait de Tony Soprano ou de Danny DeVito qui m'accueille en me faisant des punchlines de films. Mais je suis désolé, ma belle. Mais tu vas être au chômage, sale pute. Tu vas être au chômage. Et puis, quand tu seras au chômage, tu vas te dire « Ah ben, tant pis, je vais retourner à l'usine, mais sale pute. » Tu crois que c'est facile, l'usine? Tu crois que tu vas tenir les cadences? Sale merde. Tu crois vraiment que c'est un boulot à la portée de tous? Attention, c'est quelque chose, hein. Les gens, ils sont là, ouais, ben au pire, si j'arrive pas à faire ce boulot, je serai déménageur, mais c'est un métier déménageur, sale connard. Ouais, au pire, j'irai faire je sais pas quoi, mais tu sous-estimes complètement le boulot. Moi, j'entends ça des fois. Des mecs qui disent, ah ouais, mais au pire, si je fais pas ça, et ils te parlent d'un boulot ultra complexe, tu sais. Ouais, vas-y, si je rate ça, je deviens paysan, fils de pute. Paysan, tu mets 3 générations à apprendre à l'être. Sale merde, qu'est-ce que tu me racontes? Comment vouloir à Karl Schwab? Moi, je le dis, comment vouloir à Karl Schwab? Sans doute que lui, il allait au resto. Il y a un clando pakistanais qui lui a mis... qui s'est gouré dans le plat. Il s'est dit, putain, il faut que je remplace ce pakistanais par un robot. Parce que le robot, il va pas se radicaliser. Il y aura pas besoin de l'instruire, il y aura pas besoin de le soigner. Et oui, mais il faut y penser à ça. Je sais pas, la gauche, vous nous parlez de progrès tout le temps. Le progrès. Il est là, le progrès! Il est là! C'est pas du progrès de remplacer les êtres humains par du robot? Mais ça aussi, c'est du progrès! Pourquoi vous êtes contre? Oui, le capitalisme galopant, ferme ta gueule! Ça avait moins de salles grosses qui mettent 10 jours à processer une demande simple, comme en fait amener 2 fois le même plat à 2 personnes différentes, parce qu'elles confondent plat et assiette, si tu veux, et que tu la remplaces par un robot, ben c'est du progrès! C'est du progrès, voilà, elle va pouvoir rester à la maison avec un salaire universel. Avec 700 euros, elle pourra sucer des arabes, tu vois, faire un gosse avec un noir, et puis voilà, c'est parti pour le French Dream. Ensuite, elle achète les pare-soleils, la reine des neiges, elle met un toboggan, le French Dream, la Fiat Multipla, quoi, le Renault Scénic. Non, tu fais pire, regarde, tu fais pire que faire un gosse avec un père noir absent. Bon, là, les noirs, ils ont pris une balle perdue pour rien. Tu fais pire que ça, tu te mets avec un ormi, tu sais, qui aime Star Wars et les Simpsons, tu vois. T'es un mec comme ça, avec vachement de personnalité, là, qui s'habille chez Célio, tu vois. Ah, mais voilà, ça va être ça ta vie, en fait. Pendant que le robot de Tony Soprano, le robot de Danny DeVito et le robot de Stallone seront en train de prendre des commandes de manière stricte. De manière stricte, sale pute. Stricte au resto italien où tu travaillais avant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous êtes tous devenus des zombies. Qu'est-ce que vous allez faire contre la machine? Vous seriez des gens en couleur, avec une personnalité et des couilles. Mais l'Occident serait génial. Mais comme vous êtes tous devenus des zombies, mais vous allez être facilement remplaçables. Qu'est-ce qui fait de ma galaxie quelque chose d'irremplaçable? C'est quoi? C'est sa très haute emphase? C'est sa personnalité grandiloquente? Ben expliquez-moi. Il y a le robot de Stallone d'un côté et ma galaxie. Ma galaxie qui, aime aller au Flunch le vendredi soir, regarde les rediffusions de Friends. Bon, ça date un peu, c'est le French Dream d'il y a 20 ans. Mais voilà, entre elle et le robot de Stallone. Imagine, t'arrives au resto italien, t'es là, tu cherches une table, et tout d'un coup... la table 2 est disponible. Et la tête 2 est disponible. Tout d'un coup, tu te tournes. Et il y a Stallone en mode Rocky 1 avec sa tête de jeune Stallone qui te montre une table. Tu vas au resto alsacien et c'est Chances de guerre, quand. C'est Chances de guerre qui te sert tes plats. Tu vas faire quoi, ma galaxie? Tu vas faire quoi? Oui, tu vas faire poids, oui, tu vas faire du poids, j'ai lapsus révélateur. Tu vas faire quoi? Tu sais, t'arrives au restaurant alsacien. I am Arnold Schwarzenegger. Bonjour, je suis Arnold Schwarzenegger. Vous voulez Schwein und Kartoffel? Mais putain, ça ferait rêver, quand. Ou alors encore mieux avec sa voix française. Bonjour, je suis Arnold Schwarzenegger. Comment il s'appelait? La voix de Beretta, là, le doubleur. Vous savez que l'IA arrive à faire la voix de Schwarzenegger maintenant. Donc tu vas dans un resto allemand et là, surprise, deux robots, celui de Schwarzenegger et du H. Non, je rigole. Non, le bureau de Schwarzenegger. Le robot d'Arnold Schwarzenegger. Bonjour, je suis Arnold Schwarzenegger. Putain, t'es au restaurant italien, t'arrives pas à finir ton plat et t'as le robot de Stallone qui passe à toi. Eh, vas-y mon gars, pas après pas, il faut que tu finisses ton plat parce qu'il y a rien de plus fort qui cogne que la vie, tu vois. Oh putain, j'en rêve. T'imagines, tu vas dans un restaurant africain. Et au lieu d'avoir un serveur qui met 40 ans, parce que ça, c'est le problème des restos africains, c'est que t'entends 60 ans avant d'avoir ton plat. Enfin bref, bon, allez, je vais pas clasher parce que bon, bref. Et là, au lieu d'avoir un étudiant en L1 wokisme, si tu veux, tu as le robot de Carl Weathers. Bon, il est pas africain, Carl Weathers, mais si, il est africain en fait à la base quand même. Et en fait, tu commandes tes plats. Alors, qu'est-ce que tu préfères, mec? T'arrives au resto africain et en fait, les serveurs, c'est des robots de Carl Weathers, de Mike Tyson, de Michael Jordan, de tous les trucs de noir qui régalent, en fait. Là, qu'est-ce que tu fais, t'sais? Est-ce que tu penses vraiment que si un jour, c'est à la portée financière d'un restaurateur de mettre le robot de Carl Weathers dans son restaurant, est-ce que tu penses vraiment qu'il va rester des noirs qui vont pouvoir avoir du boulot dans la restauration? Est-ce que vous pensez ça? Tiens, t'arrives dans le restaurant africain. Salut mec, assis-toi dans cette table-là. mais c'est fini. Mais c'est fini. Parce qu'il y a un connard à Washington qui prétend que t'es le meilleur. Dylan, espèce d'enfant de putain. Oui, alors, dans les restaurants allemands, les Dylan, parce qu'en fait, tu fais ta réservation en ligne, tu mets ton prénom. Donc, t'arrives au resto allemand, et si tu t'appelles vraiment Dylan, il y a le robot d'Arnold Schwarzenegger qui te fait toute la tirade dans Predator. Dylan, espèce d'enfant de putain. Plaf, il t'attrape ta main, comme ça, il la serre. Tu t'es aboli. Ils t'ont fait bosser dans la paperasserie. Parce qu'il y a un connard à Washington qui prétend que t'es le meilleur. Ah. Oh putain, le régal, quoi, le régal. Des robots, vite ! Vite ! Des robots. Imaginez les kebabs. Imaginez les kebabs. Le jour où on fait des robots qui remplacent les Arabes qui ont des têtes bizarres parce qu'ils sont là pour blanchir de l'argent et en même temps ils savent qu'ils vont en enfer à cause de ça, tu vois. Donc, en même temps, ils aiment l'argent, donc si tu veux, ils laissent leur âme être achetée par l'argent du shit. Mais en même temps, ils savent que le Coran fait peser une menace sur leur âme après la mort. Tu vois. Donc, ils ont toujours des têtes bizarres. Ils ont toujours un peu des trucs. Bon. Et imagine le jour où on peut les remplacer. Et à la place de ces mecs-là anxiogènes, à la place du blédard qui fait « sans algérien, chef !» À la place de ça, ils te mettent tout d'un coup le robot de l'acteur dans Kingdom of Heaven, en fait. Le mec qui fait Saladin. Tu rentres dans chaque kebab, tu as Omar Sharif. Waouh. Wow. Tout d'un coup, ça change le truc. Donc attention, les fils de pute, les gens qui savent pas parler, les merdes, attention à vous trouver une personnalité très très vite, parce qu'un jour, il est possible que les robots soient plus savoureux que vous, parce que vous êtes moins que des robots, parce que vous avez abandonné votre âme, vous avez abandonné les opinions, parce que vous ne voulez plus être clivant. Vous êtes des merdes sans personnalité. D'accord ? Moi, là, quand j'allume Instagram, je punchline, il y a toujours une magalax de merde qui arrive pour me faire la leçon sur Internet. Sale pute, tu es consensuel, tu es une merde. Le jour où on gicle dans une capsule qui nous fabrique des bébés sans les femmes, en fait, c'est foutu. C'est fini. Mais même avant ça, le jour où ils font des robots de meufs, c'est la fin de l'espèce humaine. Le jour où ils font des robots de meufs, où t'as les mêmes sensations qu'avec une vraie meuf, sauf qu'elle te casse pas les couilles, mais là, c'est fini. Là, vous êtes obsolète. Là, c'est terminé. Le jour où pour 25 000 euros, tu peux t'acheter, je sais pas qui c'est les beautés en ce moment, là. Parce que moi, j'ai en tête les Claudia Schiffer, les Naomi Campbell, les Salma Hayek, mais aujourd'hui, elles ont 60 piges. Hein. Mais je sais pas qui sont les beautés actuelles, les mannequins actuels, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer quand une très, très, très belle meuf va se faire numériser pour qu'on fabrique un robot qui donne exactement la même sensation quand tu lui mets une levrette du démon? Qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous allez faire valoir? Ah non, mais moi, attends, par rapport au robot, je casse les couilles. Ah ouais, bah attends, mais putain, le choix est compliqué, quand. Putain, j'ai le choix entre toi et un robot de bonasse. Mais attends, mais ça va être toi directement, en fait, quand. Mais c'est la fin de l'espèce humaine. Et c'est pareil pour les meufs, hein. C'est pareil pour les meufs. Le jour où elles peuvent se faire gicler dans le col cliquot et qu'elles n'ont plus besoin de te supporter, de ramasser tes slips pour faire un gosse, et qu'elles peuvent se balader avec un tchad robot de je sais pas qui, tu vois, mais c'est fini pour toi, quoi. C'est fini pour toi, en fait. C'est-à-dire que l'espèce humaine, il faudra être vraiment un humain extrêmement savoureux et très haut en couleur pour avoir une justification de vivre sur Terre, en fait. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle fabrique, la modernité ? Elle fabrique des merdes. Eh ouais, fabrique des insipides, hein, qui ont tous la même opinion. Ah, moi, les extrêmes Ah, moi, mais alors, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y a des gens malheureux ? Poubelle ! Poubelle ! À la poubelle, tout ça. Allez, vite, vite, les robots, là, vite, vite ! Remplacez les immigrés par des robots ! Remplacez les pétasses qui savent pas prendre une commande au restaurant italien par des robots ! Foutez des robots partout ! Foutez des robots partout, con ! C'est comme ça que ça va finir. Plus on devient médiocre, plus on justifie les politiques de Klaus Schwab. Klaus Schwab, il dit un truc très simple. Hein. Il dit il y a une masse de fils de pute qui n'apporte aucune plus-value. Alors, je suis pas, malthusien ou comment on appelle ça je suis pas, comment on appelle ça merde, il y a un mot pour ça. Productiviste, non, c'est pas ça. C'est... il ne faut pas justifier sa présence et son existence par une intervention. Cela dit, on est tous tenus en tant que créatures de Dieu d'avoir une âme. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une âme ? Comment on circonscrit le fait d'avoir une âme ? On le circonscrit par l'expression de la singularité de cette âme. Et de l'inviolabilité de cette âme. C'est parce que les gonzesses ont une âme que c'est un péché de les frapper, de les violer, de les tuer, de ce que vous voulez. C'est parce qu'un enfant est une âme que c'est un péché de le tuer, de le violer, de le frapper, ce que vous voulez. C'est parce qu'un homme a une âme que c'est un péché de le violer, de le frapper et de l'exécuter. D'accord ? C'est parce que nous ne sommes pas un tronc de bois. Nous ne sommes pas une pierre. D'accord, nous avons une âme, nous avons une essence divine, c'est ça qui nous différencie des animaux. Les animaux ont été créés par Dieu, mais ils n'ont pas un morceau de divinité consciente en eux. Ce sont des productions divines, ils ne sont pas d'essence, enfin, pas d'essence, comment dire. Ils ne sont pas habités par l'essence conscientisée de Dieu, en fait. D'accord ? Ce qui est la singularité de l'homme. Or, si vous n'avez plus aucun attribut de l'âme divine en vous, vous n'avez plus rien à faire valoir par rapport au robot. Si jamais tu n'es plus qu'un corps, tu n'es plus qu'un objet de consommation et qu'en fait tu viens chercher un salaire pour pouvoir alimenter des choses que tu vas déféquer trois heures après un processus de digestion et qu'entre temps il y aura trois achats sur Zalando et 8 km de scroll sur Vinted, si tu veux. Et que tu crois pas en Dieu et que tu es une enveloppe charnelle qui n'est plus habitée par rien que par l'esprit et le désir de survivre et de consommer, bah, je suis désolé, tu ne vaux pas mieux qu'un robot. Et là, tu justifies les politiques de Karl Schwab, en fait. Parce que cet exemple que je vous ai donné, il est évidemment rigolo, mais je suis désolé. Si vous êtes deux minutes honnête avec vous-même, où est-ce que vous avez envie d'aller ? Si le robot est parfaitement fait, qu'il a exactement les attributs de l'être humain, et que c'est Stallone qui vous accueille, c'est Stallone, vous n'arrivez même pas à déceler que c'est pas Stallone, que c'est le robot de Stallone, qui vous accueille dans un restaurant italien. Vous avez le choix entre ça et Magalax, qui prend mal votre commande. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je suis allé dans un restaurant chinois avec Jules, pareil, il y a un plat qui arrive, bon déjà, ça met 3 heures à arriver, alors que c'est du surgelé de fils de pute. On n'était en plus pas du tout en plein rush, donc je ne sais pas ce qui branlait. Il y a le plat qui arrive, donc c'est un restaurant chinois en Espagne. Enfin, chinois, c'est pas des Chinois qui le tiennent. Hein. C'était plutôt des... Je sais pas, c'est des Cambodgiens ou des Laotiens, bon bref. Et là, il y a une demi-heure qui passe. Il y a un plat qui arrive, on était 3. Il y a un plat qui arrive, c'est juste du riz. Donc il n'y a pas la viande avec, donc il faut attendre pour la viande. 5, 10, 15 minutes passent. Le plat est froid, les autres sont toujours pas servis. Mais en fait, c'est de la merde. En fait, c'est de la merde. Et j'ai pété un câble. J'ai payé le repas. J'ai payé ce qu'on avait commandé. Et je ne l'ai pas mangé. Alors, Jules était très gêné parce que j'ai fait un esclandre au restaurant. Le mec est venu, le chef est sorti. Ah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, bah, en fait, il se passe que j'ai envie de manger en même temps que mes amis. Voilà. Il se passe que je suis au restaurant, j'ai envie de manger en même temps que mes amis. J'ai pas envie qu'un ami mange devant moi, qu'ensuite je mange devant lui. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. J'ai pas envie que la viande arrive 4 heures après le riz, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est bon, c'est la viande avec le riz, fils de pute. D'accord ? Et une fourmi asiatique comme toi devrait comprendre ça. Vous savez que les racialistes pensent que les Chinois miment les émotions humaines. Ce sont des extraterrestres, ce sont des aliens. En fait, les Asiatiques sont des aliens. Et ils miment les émotions. Et ils ne les ressentent pas. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je trouve ça assez rigolo. Ben là, tu te poses la question quand même. Donc, encore une fois, je vais donner un autre exemple. Je vais dans un restaurant chinois, c'est l'empereur Haotin. C'est l'empereur Haotin qui m'accueille. Et Jackie Chan. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, la commande, c'est eux qui la prennent. Et en cuisine, c'est des robots qui le font. Donc, tout arrive au poil de cul. Nickel, parfait. Quand tu mets un chocolat chaud, ou un café au lait, ou un café, ou ce que tu veux, une soupe... dans un micro-ondes, tu tapes une minute. Est-ce qu'au bout d'une minute, il y a des explications ? Non, il y a un café, un chocolat ou une soupe chaude. Il n'y a pas une explication. Il n'y a pas un sociologue qui sort du micro-ondes pour te dire « Alors attendez, non, parce qu'en fait, là, dans les processus de sociabilisation, du réchauffage des aliments, non, 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 non. Là, il n'y a place qu'à l'efficacité ou pas. Soit le micro-ondes marche, soit il ne marche pas. J'avais des micro-ondes jusqu'à il y a une dizaine d'années. J'avais des micro-ondes qui avaient été achetés par mes grands-parents dans les années 80 que j'avais trimballé dans ma vie étudiante, que j'avais gardé comme micro-ondes d'appoint, d'accord ? Ils ont fonctionné de la même manière du jour où ils ont été achetés jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je mettais un récipient avec un liquide dedans, j'appuyais sur le bouton une minute, au bout d'une minute, le chocolat était chaud. La mission était remplie, 20 sur 20, à chaque fois. C'est-à-dire que chaque putain de chocolat, chaque putain de soupe, chaque putain de truc que j'ai mis au micro-ondes est ressorti impeccablement du premier jour de service du micro-ondes jusqu'au dernier. D'accord ? Alors, cela dit, c'est un micro-ondes Bosch. Ça, il faut que je le précise. C'est un putain de micro-ondes allemand. Tu vois ? Donc, le micro-ondes, il a été fabriqué par des mecs. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je vous ai déjà fait le sketch sur les Allemands 1000 fois. D'accord ? Bon, le micro-ondes, il a une mission. Il a deux missions. Éradiquer la race juive de la planète, tu vois. Et la deuxième mission qui fait passer pour la première, c'est réchauffer les trucs qu'on met dans le micro-ondes, en fait. Et il l'a fait du début à la fin. Il n'a pas pu s'occuper d'éradiquer la race juive de la surface de la Terre, parce que ça n'est qu'un simple micro-ondes, d'accord ? Alors, le jour où il pourra communiquer avec les autres micro-ondes, peut-être qu'il va se passer un truc de fracassé. Mais sa deuxième mission, qui a été fait passer pour la première, c'est-à-dire réchauffer des plats, il l'a fait. Il l'a fait impeccablement, en fait. Ça a été un putain de bon micro-ondes allemand, en fait, tu vois. C'est-à-dire, j'ai envie de lui taper sur le côté en disant « Coute, coute. Bon, t'es un enculé de nazi, mais bravo en ce qui concerne... » Tu sais, c'est un peu comme dissocier les succès économiques de Hitler et la politique de Hitler, en fait. Les succès économiques de Hitler, bravo. La politique de Hitler, pas bien. Tu vois, mais t'as envie de dire pareil à ton micro-ondes. Bravo, tu es un brave petit micro-ondes allemand. Tu as très, très bien fait ton travail. Tu m'as rendu de fier là aussi. Et vous savez quoi ? Au bout de 40 ans, je l'ai pas balancé parce qu'il marchait plus. Je l'ai balancé parce que j'en avais un meilleur. J'ai acheté un nouveau Bosch. Donc j'ai jeté le vieux Bosch. C'est-à-dire qu'il n'a même pas été remplacé par une merde chinoise. C'est un putain de micro-ondes allemand qui a été remplacé par un micro-ondes allemand. Il n'y a pas eu de grand remplacement, si tu veux. C'était l'ancienne gare de Bosch a été remplacée par une nouvelle gare de Bosch, d'accord ? Donc maintenant, il est au paradis des micro-ondes allemands en train de parler de trucs antisémites et de bière avec d'autres micro-ondes allemands. D'accord ? Il a été impeccable du début à la fin. Je suis persuadé que sur le million de fois, parce que ça doit se compter en millions, non, peut-être pas en millions, mais en plusieurs dizaines de milliers, les fois où il a eu la mission de réchauffer du liquide, à chaque fois, c'était mission réussie. À chaque fois. Si le micro-ondes avait reçu une putain de médaille en ferraille, à chaque fois qu'il avait réussi sa mission, qui est de réchauffer du liquide chaud, le putain de micro-ondes serait le micro-ondes le plus médaillé de l'histoire. Il pèserait 4 tonnes 5, en fait. D'accord ? On pourrait plus ouvrir la portière tellement qu'il y aurait une médaille. D'accord ? Il a réalisé sa mission du premier jour jusqu'au dernier. D'accord ? Comme un putain de micro-ondes allemand. D'accord ? Est-ce que sur la... Si je prends un être humain négligent et que je lui dis plusieurs dizaines de milliers de fois de me réchauffer quelque chose, il va se gourer parce que pourtant c'est un truc simple. D'accord ? Moi, quand on me demandait de faire des trucs simples, je les fais, je mets de l'application dedans. L'erreur est humaine et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Je ne suis pas en train de dire qu'on est tenu à avoir le même niveau de résultat que le micro-ondes, mais on peut rendre le monde plus beau et plus fonctionnel en mettant de la rigueur. Et c'est dans les endroits où on met de la rigueur que les gens ont envie d'être, en réalité. C'est pour ça qu'ils ont beau vous parler des miracles du Coran, ils ont tous le cul posé en Occident. Parce que les gens mettent de la rigueur. Parce que quand on fait un plat dans la rue, on n'est pas en train de touiller avec nos deux doigts comme au putain de Pakistan, avec des rats qui courent par terre, et ils le savent. Et ils le savent. Et la vérité, c'est ça, c'est qu'on a envie de vivre au milieu d'un micro-ondes allemand. D'accord ? Et pas avec une obèse qui prend mal les commandes. Voilà, c'est la stricte réalité. Donc si un jour on ne veut pas subir des défilés de micro-ondes à Nuremberg, il va falloir qu'on se réveille et qu'on redevienne des êtres humains appliqués. D'accord ? Jamais aucune machine ne peut de son propre chef peindre la chapelle Sixtine. Elle ne peut pas de son propre chef passer une aussi belle après-midi que ton grand-père quand il t'amenait à la pêche. Elle ne peut pas de son propre chef mettre les silences au bon moment quand il faut, à table, après le repas. Jamais la putain de machine n'égalera ton lourd grand-père, n'égalera les grands artistes et n'égalera les choses simples qui demandent d'être un être humain complexe. C'est le paradoxe. Jamais la machine ne pourra mimer la beauté du premier baiser avec une femme. Si tu veux, jamais la machine ne pourra simuler ou comprendre, enfin si, elle pourra peut-être le simuler, mais elle ne pourra jamais comprendre ce que c'est que qu'on t'appelle parce qu'il y a un proche à toi qui est décédé et tu vas toucher avec ta main la main de ce proche et tu découvres que c'est froid et tu t'attendais pas à cette température. Ça, la machine, elle peut le comprendre, elle peut le simuler, elle ne peut pas le ressentir, ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Et je parle en connaissance de cause. Moi, un jour, on m'a appelé, on m'a dit « Votre mère est décédée. » Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu ma mère allongée dans un lit, j'ai touché sa main et elle était très froide. Pourtant, il y a des milliers de films où ça avait été relevé, ce détail. Mais si tu ne l'as pas encore vécu, tu ne sais pas ce que c'est que de toucher la main de la personne qui t'a élevé pendant 9 mois, qui t'a mis au monde, avec qui tu as vécu, avec qui tu as un lien qui est inimitable, et toucher cette main froide-là. La machine peut le raconter, elle peut fabriquer une image qui parle de ça, mais elle ne peut pas le ressentir. Elle ne peut pas le ressentir. J'ai pris cette main froide et une fois que j'ai compris qu'elle était froide, je me suis dit, je vais faire une bise sur le front de ma mère. Et j'ai fait une brise sur un front qui avait l'air d'être de l'albâtre, du marbre froid. La machine ne pourra jamais comprendre ce qui se passe dans le cœur et le cerveau d'un garçon qui embrasse le corps défunt de sa mère. C'est comme ça ne pourra jamais comprendre la beauté qu'il y a à aller prendre une douche chaude après un match de rugby en hiver. Quand tu t'es filé dans la boue avec les vêtements qui sont les vêtements qui sont qui ont été les maillots qui sont en grosse maille de coton qui ont été lavés 15 fois et qui te râpent la peau et qui deviennent extrêmement lourds quand il y a beaucoup de boue dessus. La machine peut le décrire, elle peut en parler, elle ne pourra jamais le ressentir. La machine ne peut pas comprendre ce que ça fait de voir l'enterrement du comte d'Orgaz à la cathédrale de Tolède. Elle ne peut pas. Elle peut m'en parler, elle peut me le montrer, elle peut me dire ce que d'autres gens ont ressenti, elle ne peut pas elle-même le ressentir. Qu'est-ce qu'on fait quand on ressent les choses ? On se met en présence dans notre corps. On reprend possession de ces merveilleux instruments cognitifs que nous a donné Dieu dans la perfection de sa création. Il nous a donné l'ouïe, il nous a donné la vue, il nous a donné le toucher, il nous a donné l'odeur et il nous a permis de rentrer dans la cathédrale d'Albi et de comprendre ce que ça signifie de rentrer dans la cathédrale d'Albi un jour de juin et de toucher la fraîcheur des murs, de voir la dentelle de pierre et de comprendre ce que ça traduit. La machine ne peut pas décrire ce que c'est et le plaisir que c'est d'entendre un vieux passer à côté d'un mec qui a eu un accident de mobylette, et là je vous raconte quelque chose auquel j'ai assisté dans les années 90, et qui dit à cette personne en passant sans s'arrêter « Et où va Zara ?» en occitan. « Et où tu vas maintenant ?» La machine ne peut pas comprendre le génie qu'il y a dans cette phrase. La machine, il peut y avoir des armées et des armées d'ingénieurs indiens, juifs, japonais, pakistanais, parisiens de mes couilles, ce que vous voulez. Elle ne pourra jamais ressentir ce que tu ressens quand tu vois un vieux papy occitan passer à côté d'un kiki qui cabrait en scooter et qui a pris une gamelle et sans s'arrêter lui jeter un « Et on va à Zaro ? On va à Zaro ? Et où tu vas maintenant ?» Ça, la machine, elle peut le décrire. Elle peut me décortiquer la grammaticale occitane qu'il y a derrière. Elle ne peut pas comprendre le génie, le trait de génie qu'il y a eu à ce moment-là. Et la confrontation de deux mondes, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est le miracle de la création divine. Jamais la machine ne sera à la hauteur de la création divine. À nous de faire honneur à celui qui nous a créés. À nous de rester des essences divines. Si tu te résumes à un scrolling, à des opinions que tu as collectées sur BFM TV et à être consensuel et habillé avec ce que tu as vu derrière les vitrines, tu es une merde. Tu es une merde. Et je préfère parler avec une machine qui arrive à simuler ce qu'on ressent quand on regarde la chapelle Sixtine que toi qui ne sais même pas ce que c'est que la chapelle Sixtine alors que tu as été créé par Dieu. Salope. Voilà. Voilà pourquoi il faut mettre de la grâce et de la beauté dans le monde. Parce que ça nous raccroche à notre essence divine. Parce qu'être humain, c'est ça. Être humain, c'est ça. C'est prendre ce qu'il y a de beau et se l'infliger. Comme une discipline. Comme un idéal. Comme un but à atteindre inatteignable. Comme une odyssée perpétuelle de votre naissance jusqu'à votre chaîne de mort. La beauté au-dessus de tout, la grâce au-dessus de tout, la beauté sauvera le monde. La grâce et la beauté sont des sens divines. Si nous nous en détournons pour devenir des machines, nous ne sommes plus les enfants de Dieu, nous n'avons plus de raison d'être mis sous sa protection. Et nous serons balayés. Cette pauvre fille, si vous voulez, qui se résume à être une machine organique, sera toujours moins une machine qu'une machine machinesque, qu'une machine non pas biologique, mais mécanique. Je ne sais pas comment on dit. On oppose organique à mécanique, j'imagine. Bref, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, chacun doit conscientiser qu'il a une mission en ce bas monde. Il a une mission. C'est se montrer à la hauteur de sa part de nature divine. Et ça me permet de raccrocher les wagons avec ce qui est en train de se passer en Occident actuellement, c'est que les gens ont été tellement vidés de leur substance, leur vie n'ont tellement plus de saveur, n'ont tellement plus de beauté n'ont tellement plus de sens qu'ils sont en enfer. Et quand tu es en enfer, tu rêves de retourner vers Dieu. Et c'est parce que nous sommes allés au fond du trou que nous sommes en train de rebondir petit à petit. Record des catéchuménats, record de la fréquentation des messes des cendres, record des baptêmes d'adultes, record de la, du suivi du carême. On n'a pas encore les chiffres de la fréquentation des principaux pèlerinages français, mais en 2024, c'était un record. Et on va très certainement vers un nouveau record cette année. Parce que les gens sont allés au bout du bout du bout de la déshumanisation d'eux-mêmes. Quand tu régurgites ce que tu as entendu à la télé comme une merde, tu n'es plus un être humain. Quand tu manges de la merde, tu n'es plus un être humain. Quand tu penses de la merde, tu n'es plus un être humain. Et en fait, ce qui est en train de se passer est merveilleux. Les gens sont allés en enfer, ils veulent, ils demandent Dieu. Ils réclament Dieu. Il y a une soif de ça, il y a une soif de beauté et de grâce. C'est d'être allé en enfer qui nous fait comprendre l'espérance que transporte Dieu et que transporte le Christ, la figure du Christ. Le Christ, c'est la pureté qui a traversé la médiocrité et qui a quand même renoué avec la pureté. Le Christ, c'est la pureté qui n'a pas été altérée par la médiocrité et qui retourne à son essence première, qui est l'essence divine, donc en fait la pureté. Et c'est à ça qu'on doit tendre. Plus le monde est médiocre, plus je mets de la beauté. Plus le monde est relax, plus je mets de la rigueur. À tous les niveaux. C'est ce que fait le Raptor, par exemple, en essayant de maintenir un corps beau, en essayant de bien s'habiller. C'est une marque d'acceptation, de reconnaissance et de favorisation de son essence divine. C'est ce que fait Jules quand il se défonce à l'entraînement. Il va chercher cette essence divine. C'est ce que fait notre ami Dubu, le peintre, notre peintre des Flandres, quand il fait un tableau. Il va chercher la grâce, il va chercher la beauté. C'est ce qu'a fait notre ami Golem de droite sur Instagram quand il a fait la procession en unité avec les catholiques, lui l'orthodoxe. Ils ont voulu mettre plus de beauté dans le monde. C'est magnifique. C'est ça, se rapprocher de Dieu. C'est ça, se rapprocher de soi-même en réalité. C'est mettre toujours plus de beauté dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on a plaisir à aller voir les châteaux de la Renaissance, les châteaux forts? Parce que les choses étaient faites et animées par des hommes qui étaient des hommes uniques, qui étaient des hommes qui avaient encore une essence divine entre eux. C'est à partir de la standardisation, de la mondialisation, de la relativisation, de l'égalisation, que le monde est devenu insipide. Et il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. Nous avons une mission qui est de mettre de la rigueur dans ce qu'on fait, qui est de mettre de quelque chose d'unique dans les choses qu'on fait, et de leur donner du sens. Mais que vous soyez joueur de rugby, que vous soyez boxeur, que vous soyez dans l'art sartorial, que vous soyez écrivain, que vous soyez peintre, que vous soyez maçon, que vous soyez restaurateur, que vous soyez fromager, que vous soyez ce que vous voulez, mettez de la beauté et du sens dans ce que vous faites et vous vous rapprocherez de Dieu. C'est ça, la véritable prière. Vous avez la prière où vous vous agenouillez et puis ensuite vous avez la prière des actes. Mettre de la beauté dans le monde, c'est adresser une prière à Dieu. C'est lui dire, je reconnais la beauté intrinsèque de ce que tu as fait. J'en dégage les côtés pesants du monde physique, matériel. Et je vais extraire la beauté qu'il y a dans tout ce marasme pour te la donner, pour te l'offrir, pour me l'offrir à moi, pour se l'offrir entre nous. C'est comme ça qu'on a fait la France et que c'était le plus beau pays du monde. On s'offrait de la beauté à soi et aux autres. C'est parce que je veux voir de la beauté que je fais peindre ce tableau. C'est parce que je veux voir de la beauté que je fais cette tour. Et en même temps, je vous l'offre. Je l'offre à ceux qui la regardent. Je l'offre à ceux qui vont la visiter. Je me l'offre à moi-même. Et après ma mort, je l'offre à Dieu. Voilà, les amis. Sinon, ça va finir avec des robots de Stallone. Et pourquoi pas avoir les deux? Pourquoi pas redevenir tous des artisans, des promoteurs de beauté, laisser les tâches pesantes aux robots et devenir tous des artistes et revivre dans et revivre ou des artisans ou des orfèvres et revivre dans un monde avec des gens qui ont de la personnalité plutôt qu'au milieu de machines organiques. Ah, les amis. Putain de merde. Eh oui. Bon, fin du podcast, 1h09. Vous pouvez retrouver mes livres aux éditions Magnus. Vous pouvez accéder à mes lives mensuels Patreon sur mon canal Patreon qui est accessible depuis mon Instagram. Vous pouvez me soutenir via La Furia qui paraît tous les trimestres. Voilà, procurez-vous mon travail si vous avez envie de me soutenir, les amis, ou abonnez-vous à mon Patreon. C'est ce qui me fait vivre, ce qui me permet d'enregistrer ces podcasts avec du bon matériel. Je vous embrasse, les amis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, malgré tout, une joyeuse Pâques. À très bientôt.